Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi 5 mai 2015. Très heureux de vous retrouver. Et merci donc de nous recevoir chez vous. Le marché des médicaments, des faux médicaments en Afrique et particulièrement au Mali. Les causes et également les dégâts que ces médicaments causent en termes de santé publique et de pertes en termes fiscales. Nous allons voir tout cela avec nos invités. Moussa Gorodial, vice-président de l'Ordre des pharmacien du Mali. Madame Koulibaly Salimata Diarra est en cours de chemin. Elle est la présidente de l'Association des consommateurs du Mali. Nous avons également Dr Al-Mustapha Maïga, chef de service du laboratoire de l'hôpital Gabriel Touré et au téléphone Anaïs Autin, journaliste de BBC, auteur donc d'un rapport sur le phénomène que nous allons joindre depuis Dakar. Je suis Famoussa Sidibé et Mamadou Ouattara est à la technique. Plus de 120 000 d'enfants africains sont morts en 2013 à cause de faux médicaments. Pire, la contrefaçon représenterait 30% des traitements sur le continent. Toujours en Afrique, le tiers des médicaments contre le paludisme, maladie la plus mortelle du continent, est constitué de faux. Une proportion qui peut monter de 40% au Ghana et au Cameroun, voire près de 60% au Nigeria, selon les experts. Alors, docteur Moussa Gorodial, vous êtes vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Mali. Dites-nous si vous confirmez ces chiffres.
Merci. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Tamani et ses radios affiliées. Donc, effectivement, ce qui est sûr aujourd'hui, ce phénomène est un phénomène plus que mondial aujourd'hui. Et il se retrouve surtout dans les pays dont le pouvoir d'achat est faible. Et également là où le problème de prise en santé, le problème de prise en santé publique pose énormément de problèmes. Et donc, c'est des chiffres, effectivement, pour certains pays, ça va même au-delà de ça. Au-delà des chiffres de pourcentage qui ont été dit. Et de façon générale, nous savons que en Afrique, comme les pays comme le Nigeria, la Sierra Leone, la Guinée, et nous aussi, on n'est pas épargnés. Et les chiffres sont énormément, c'est vraiment des chiffres faramineux.
Alors, nous avons en ligne depuis Dakar Anaïs Autin. Anaïs, vous êtes journaliste à BBC. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, dites-nous ce que vous avez mené comme étude sur le phénomène.
Alors, d'après mon étude, c'est vrai que c'est un phénomène qui est en pleine expansion, le trafic donc de faux médicaments. C'est un phénomène qui rapporte beaucoup, surtout, donc qui peut expliquer cette expansion, parce qu'il faut savoir que, donc d'après les gens que j'ai interrogés, le trafic de médicaments rapporte plus que le trafic de drogue. Donc ce sont vraiment des sommes énormes. Ce serait 25 fois en fait plus rentable que le trafic de drogue.
Alors aujourd'hui, on parle largement de cette question sur une bonne partie, sur le continent de façon générale. Dites-nous quels sont les pays qui ont été, que vous avez sillonnés pour mener cette étude.
Alors moi, je me suis concentrée principalement sur le Sénégal, comme je suis basée au Sénégal, mais j'ai eu à parler à des gens qui ont travaillé également en Gambie et aussi en Mauritanie. Mais c'est vrai qu'ils étaient plus spécialisés sur le Sénégal, donc je peux parler plus précisément du Sénégal aujourd'hui.
Alors, si on voit le phénomène, c'est des médicaments contrefaits, mais des médicaments qui ne sont pas du tout dans la ligne régulière de médicaments fournis par les pharmacies. Alors, est-ce que il y a un écart conséquent entre ces médicaments qui proviennent donc des chaînes ordinaires, mais qui ne sont pas de vrais médicaments, et ces médicaments qui sont totalement en dehors de la chaîne classique?
Alors, ces médicaments, en effet, ce qu'on appelle les faux médicaments, c'est-à-dire que c'est des médicaments déjà dont on ne sait pas tout à fait la provenance. Donc c'est vrai qu'il est très difficile de dire ce qu'il y a exactement dans ces médicaments. Ce qui est sûr, c'est que les dosages ne sont pas forcément respectés de ce que nous ont dit les pharmacistes, et que des fois, ils mélangent aussi certaines la composition des médicaments, ce qui en fait des médicaments très dangereux, de ce qu'ils nous ont dit. Donc.
Merci beaucoup Anaïs Sautin. Je rappelle que vous êtes journaliste à BBC et vous intervenez depuis Dakar. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Nous avons un médecin avec nous, le docteur Al-Mustapha Maïga. Vous êtes chef de service donc du laboratoire de l'hôpital Gabriel Touré. Quelle est l'ampleur de ce phénomène-là justement sur la santé publique de façon générale, de façon particulière à l'hôpital Gabriel Touré?
Merci beaucoup Famara. Je dis bonjour aussi à vos auditeurs. Alors, je corrige juste que je suis pharmacien. En fait, je suis pharmacien virologue. Donc, du coup, cette question, ça m'interpelle beaucoup.
Au premier plan.
Et en réalité, le phénomène, il est difficile de le cerner dans nos structures hospitalières aujourd'hui au Mali. On a un gros problème parce que on a un problème sur la réglementation. La réglementation et le contrôle. Parce que nous, au niveau des hôpitaux, on reçoit des médicaments qui viennent de partout. On a une liste de médicaments qui forcément on va les acheter au niveau de la pharmacie populaire du Mali, la PPM. Ça c'est le schéma d'approvisionnement, le schéma directeur d'approvisionnement qui exige cela. Mais il y a des fournisseurs qui nous fournissent des médicaments. Et souvent, comme vous le savez, ces médicaments, certains ne sont pas contrôlés. On n'a pas de moyens de contrôle. Les moyens de contrôle qu'on a, c'est les moyens de contrôle visuel, on regarde les lots, on regarde les dates de péremption. Et les fossoyeurs, ils sont tellement ingénieux, ils sont tellement sophistiqués qu'ils arrivent à te fabriquer des médicaments identiques sur les plans des boîtes, sur les plans des comprimés, sur les plans de la présentation. Tout est identique. Donc nous, on a du mal souvent à évaluer le phénomène. Mais qu'est-ce que nous, on voit en réalité? On voit régulièrement à l'hôpital que pour des infections banales, les gens meurent et qu'on donne des antibiotiques pourtant qui sont censés être efficaces et que ça ne marche pas. Ça ne marche pas sur le patient. Vous faites un antibiogramme pour voir si ces antibiotiques, c'est le patient qui est malade de bactéries, si les bactéries sont résistantes ou pas aux antibiotiques. Tu trouves que non, il y a des bactéries qui sont bien sensibles à ces antibiotiques-là. On donne des antibiotiques, mais les maladies meurent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Probablement, il y a beaucoup de questions qu'on se pose parce que nous, on ne contrôle pas le circuit d'approvisionnement, on ne contrôle pas comment est-ce que les médicaments, et jusqu'à arriver à l'hôpital, on ne contrôle pas parce que les médicaments ont des degrés de température sur lesquels ils doivent être conservés. On ne contrôle pas tout ça, on n'a pas de maîtrise là-dessus. Donc, la question, c'est où? Est-ce que c'est les faux médicaments? Est-ce que c'est... Il y a beaucoup de questions qui restent à poser.
Oui. Alors, nous allons retourner à Dakar, retrouver Anaïs Autin, journaliste à BBC. Anaïs, dites-nous, de quel pays nous viennent ces médicaments?
Alors, de ce que l'on sait, comme je le disais tout à l'heure, la provenance est assez difficile en fait à cerner, mais il y aurait beaucoup de médicaments en provenance d'Inde et de Chine. Donc, c'est les deux pays qui apparemment seraient des grands fournisseurs de médicaments.
Alors, on l'a vu également, ces médicaments partent souvent de Guinée, voire même du Nigeria. Quel est le rôle donc du Nigeria par rapport à la fourniture donc des pays de l'Afrique de l'Ouest? Est-ce que vous avez une idée?
Alors là, par contre, je n'ai aucune idée puisque je me suis concentrée, comme je vous le disais, sur le Sénégal. Et donc, par rapport au Nigeria, non, par contre, là, je n'ai aucune idée.
Alors, ces médicaments pilulent dans la plupart des pays africains. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'est-ce qui donne cet engouement des populations pour ce genre de traitement?
Alors, tout d'abord, je pense que c'est l'attrait du prix, en fait. Mais parce qu'il est considéré comme moins cher, ce médicament de la rue. Pourtant, les pharmaciens ont insisté sur le fait que c'était pas forcément moins cher dans la rue, mais parce que les gens ont tendance à acheter ces médicaments à l'unité, ils vont plus facilement à aller vers les médicaments de la rue. Pourtant, avec la promotion, le développement des médicaments génériques maintenant en pharmacie, il se trouve que finalement, les prix sont les mêmes en pharmacie ou dans la rue. Donc il y a cet aspect prix, cet aspect de cherté de la vie que les gens vont avoir plus tendance plus tendance à partir chercher les médicaments dans la rue. Donc c'est surtout l'aspect prix.
Alors nous l'avons vu, c'est la pauvreté qui pousse la majeure partie des populations en Afrique à avoir recours donc à ces médicaments. Docteur Gouro Dial, vous êtes vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Mali. Est-ce qu'il y a une autre cause en plus de ce qui vient d'être dit par Anaïs Sotin?
Oui, d'accord. Merci. Permettez-moi juste avant d'arriver à cette question pour revoir un peu ce qui a été dit pour apporter un complément par rapport à mon confrère. Et effectivement, mais nous disons que, comme il l'a dit, il y a un schéma directeur d'approvisionnement qui est édicté par la politique nationale pharmaceutique au Mali et qui relève de la DPM, qui est un département chargé d'appliquer la politique et de définir la politique en matière de médicaments. Donc si ce schéma est respecté, en principe, on ne devrait avoir aucun problème par rapport à ces faux médicaments. Mais il faut dire, il l'a dit, aujourd'hui, avec les méthodes de communication, les méthodes ultra sophistiquées, on arrive à faire des choses qui sont exactement, reproduire exactement les mêmes informations que la molécule Princeps. Mais fort heureusement, il faut quand même rappeler qu'il y a le LNS, qui est un laboratoire national de santé du Mali, qui est là, qui est vraiment l'un des laboratoires de qualité en Afrique de l'Ouest ici, et qui fait un travail formidable, heureusement, et parce que très souvent, ils passent au niveau des officines, ils font des tests, ils font des échantillonnages, et quand les conteneurs arrivent également, donc ils passent toujours pour faire des prélèvements et puis faire des échantillonnages pour être sûr que ce qui a été livré au Mali, c'est vraiment des produits de qualité. Donc, heureusement que ça existe. Maintenant, tous les médicaments qui échappent à ce circuit, donc qui n'est pas dans le circuit normal, naturel d'approvisionnement qu'a édicté la politique, ce sont ces genres de médicaments. C'est là où on risque effectivement de retrouver les faux médicaments. Il l'a dit très souvent, nous, on a effectivement eu des remontées des médecins qui nous disent que, bah, écoutez, maintenant nous constatons que nous traitons avec 10 jours de temps en antibiothérapie, mais avec tout ça, la fièvre persiste. Effectivement, ça montre quelquefois, on a vu dans des études où, quand on est censé avoir 1000 mg de principes actifs, on n'a même pas 500 mg. Donc, vous voyez. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais effectivement dire. Et maintenant, par rapport effectivement à la question de la pauvreté, oui, il n'y a pas que la pauvreté. Donc, qui a amené les gens vers l'utilisation de ces médicaments. D'abord, les premières études avaient montré qu'il y avait, même au niveau des structures, les structures publiques, il faut le dire, il ne faut pas se voiler la cache, la face, c'est qu'il y avait également l'approche accueil avait été un des facteurs très importants. En tout cas, il y a une étude qui avait été faite il y a une dizaine d'années qui avait montré que donc, cette approche avait détourné les gens des structures publiques. Donc, ils sont finalement partis vers des structures informelles et là, ils sont parvenus à trouver ces médicaments, effectivement, qu'on pense être des médicaments moins chers. Mais on sait aujourd'hui, depuis plus d'une dizaine d'années, depuis l'initiative de Bamako, qui remonte maintenant des années et dont le Mali a été un des pionniers, on sait qu'aujourd'hui, il existe des médicaments beaucoup moins chers. Et quand vous prenez la liste des 102 médicaments, des 122 médicaments qui a été fixé par le Mali, c'est des prix, on ne peut pas dire que c'est des médicaments qui sont chers. Non, ce n'est pas du tout cher. Quand on compare, ce n'est pas du tout cher. Et donc, aujourd'hui également, il existe d'autres structures, il existe vraiment d'autres choses qui font qu'aujourd'hui, nous ne devons plus aller vers ce secteur. Aller trouver des excuses, trouver des explications pour dire que parce que c'est un marché moins cher. Non. Voilà.
Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre donc avec cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, notre page Facebook est à votre disposition et également notre compte Twitter pour réagir face à ce que vous entendez à travers nos 20 stations partenaires à travers tout le pays. Alors aujourd'hui, le Grand Dialogue réfléchit sur les faux médicaments, l'ampleur donc du phénomène, les causes et les dégâts dans le pays. Nous avons pour cela trois invités pour en parler. Malheureusement, la présidente donc de l'association des consommateurs du Mali n'a pas pu faire le déplacement. Si on me fait signe qu'elle est là, elle est donc à la régie, le temps juste pour elle de s'installer. Nous allons partir à Dakar avec Anaïs Otten, deux journalistes, dont elle est journaliste donc à BBC. Anaïs, dites-nous aujourd'hui, vous dites que c'est un business plus lucratif que le trafic de drogue. Aujourd'hui, les plus grandes firmes dans les capitales donc des pays africains se ravitaillent souvent sur ce genre de marché. Est-ce que c'est le cas? Vous avez constaté un cas similaire, des cas similaires donc au cours de votre enquête?
Alors oui, c'est un trafic qui est extrêmement rentable. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, le trafic serait 25 fois plus rentable que le trafic de drogue. Au Sénégal, chaque année, le chiffre d'affaires est estimé à 12 milliards de francs CFA, ce qui est quand même assez énorme. Et lorsque j'ai donc réalisé mon reportage, bon, les principaux protagonistes du secteur ne sont pas dupes. Hein. C'est un trafic dans lequel plusieurs personnes sont impliquées, hein, du douanier évidemment, jusqu'à certains membres haut placés du gouvernement. Donc ils soupçonnent bien évidemment certaines personnes haut placées de fermer les yeux, de tirer profit de ce trafic et d'être vraiment impliqué dedans, évidemment. Oui.
Alors, merci beaucoup, Anaïs. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Docteur Al-Mustapha Maïga, vous êtes chef de service du laboratoire donc de l'hôpital Gabriel Touré. Dites-nous aujourd'hui les conséquences de l'utilisation de ces produits sur la santé.
Alors, les conséquences sont énormes. C'est vraiment dramatique quand on regarde un peu ce qui se passe et quand on lit un peu ce qui se passe dans la littérature. Il a été reporté vraiment qu'il y a sur toutes les maladies, presque toutes les maladies. Mais les fossoyeurs, ils sont très ingénieux. Ils vont cibler des médicaments qui sont très vendus, des médicaments qui sont très demandés et des médicaments qui coûtent relativement un peu plus cher, tels que les médicaments qui vont lutter contre les troubles de l'érection. Vous savez que nous, on reçoit à l'hôpital très souvent des gens qui ont pris des médicaments pour des troubles de l'érection et qui se retrouvent en coma, parce que souvent, c'est des médicaments, des faux médicaments dans lesquels il y a le principe actif qui est dedans, c'est souvent un médicament antidiabétique. Donc, il va baisser le taux de sucre. Donc, la personne se retrouve en coma. Tu te retrouves pour faire des rapports sexuels et tu te retrouves dans un coma. Où on trouve... j'étais à l'hôpital de Ségou une fois et je revenais d'un jeune couple qui venait de la mairie et le monsieur, il revenait d'un priap. Il a pris des médicaments et il a eu un priaprisme. Un priaprisme, c'est une érection prolongée. Le monsieur, il est décédé de ça le jour de son mariage. Et ça, c'est juste un seul aspect. Et aujourd'hui, la contrefaçon a attaqué des médicaments très sophistiqués, les nouveaux médicaments contre le paludisme, qui sont les nouvelles combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine et d'artémétère, sont aussi contrefaits. Il y a des médicaments contre les cancers qui sont contrefaits aujourd'hui. Il y a des médicaments contre les maladies cardiovasculaires qui sont contrefaits aujourd'hui. Il y a des médicaments contre la tension. Donc, il y a tous les secteurs de la santé aujourd'hui sont impactés. Et il y a beaucoup de personnes à l'hôpital qui meurent. On accuse les médecins, on dit qu'on n'est pas compétent. Et pourtant, les médecins ont fait leur travail. Ton travail, c'est de prescrire un médicament. Le médicament, il est vrai, il est faux. Comment est-ce qu'il est... Vous savez, quand vous êtes à l'hôpital, quand on esprit, on prescrit une ordonnance, on ne sait plus où est-ce que le patient il a cherché les médicaments. Les médicaments viennent, on ne fait que les administrer et du coup, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces médicaments. On est rassuré aussi qu'on a le laboratoire national de la santé, mais il faut savoir que réellement, le laboratoire de la santé, aujourd'hui, c'est limité pour un seul labo qui va gérer tout ce qui se passe au Mali. Ce n'est pas possible. Le laboratoire national de la santé gère les aliments, il gère les médicaments, il gère tout. C'est impossible aujourd'hui de pouvoir avoir une maîtrise correcte du schéma de tous les médicaments qui rentrent dans le pays. Donc il y a vraiment un danger catastrophique sur la santé aujourd'hui.
Alors nous allons un peu nous appesantir sur cette question de l'approvisionnement donc des structures pharmaceutiques avec vous Gourodial. Dites-nous si aujourd'hui certaines pharmacies de la place s'approvisionnent sur ce marché noir.
D'accord. Merci. Donc permettez-moi toujours pour apporter un peu d'appui également par rapport à votre concert de Dakar.
De BBC.
Pourquoi le phénomène? Oui, effectivement, elle a dit le phénomène est exponentiel. Vraiment, ça a une évolution exponentielle. Pourquoi? Comparé par rapport à la drogue. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, aujourd'hui, la drogue est tellement surveillée, est tellement identifiée et cernée que c'est très difficile. Et donc, tous ces gens qui ont évolué dans ce secteur se sont finalement retrouvés vers le secteur pharmaceutique, le secteur des médicaments. Alors, et aussi, quand on regarde par rapport au texte qui récrimine, qui pénalise toutes les personnes qui utilisent ces faux médicaments ou qui font le faux exercice, l'exercice illégal. C'est ça l'exercice illégal ou des faux médicaments. C'est presque insignifiant par rapport aux sommes d'argent faramineux que ces gens ils ramassent. Donc voilà, là, c'est un des secteurs également, un des facteurs qui fait qu'effectivement, ce secteur a connu beaucoup d'essor. Par contre, quand vous voyez le secteur de la drogue, les lois, on connaît aujourd'hui, il y a des pays qui tuent. Vous êtes directement figé après un procès. C'est même, je pense que vous êtes des journalistes, vous savez qu'il y a moins de 10 jours, le phénomène a existé dans un des pays aujourd'hui. Donc voilà, mais le secteur en ce qui concerne les médicaments, donc les choses ne sont pas... Nous avons à un moment donné demandé de rehausser le niveau des sanctions. Parce que vraiment, les sanctions sont presque dérisoires par rapport à la faute commise. Donc ça, c'est un des facteurs. Donc ça, c'était vraiment pour effectivement appuyer votre concert de Dakar. Maintenant, vous avez demandé si les pharmacies s'approvisionnent
sur ce marché.
Voilà, non. Bon, alors, en principe, connaissance. Oui. Non, je vais vous dire, voilà, comment existe le schéma directeur. Ce que dit le schéma directeur, c'est déjà connu. Je l'ai dit tout à l'heure, il l'a rappelé. Donc, il existe des structures grossistes. Lui, il a parlé avant de la PP, mais il existe également d'autres structures. Il y en a vraiment une multitude. Il y en a beaucoup de structures grossistes qui sont légalement et régulièrement installées, effectivement, qui travaillent correctement. Que c'est là, normalement, que les officines doivent se ravitailler.
Alors, je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Mali.
Tout à fait. Voilà. Et qu'à la date d'aujourd'hui, nous, on n'a jamais été saisis d'un quelconque ravitaillement d'une officine en dehors du circuit légal. Et si jamais on est informé de ça ou nous avons connaissance de ça, on va sévir contre cette officine.
Alors, nous avons vu au cours de l'année dernière, si je ne m'abuse, des fournisseurs de médicaments qui exerçaient en toute illégalité et que la gendarmerie a donc mis fin à leurs activités. Est-ce que vous menez des activités allant dans le sens de la prévention, par exemple, de ce cas de figure?
Oui, bon, donc nous menons des activités et je vais dire déjà aujourd'hui d'ailleurs, vous avez c'est l'occasion peut-être que même si, je vais dire aujourd'hui nous avons un thème central, nous allons avoir déjà le plus grand forum pharmaceutique au Mali bientôt, au mois de juin, le thème central en du long partenariat public-privé pour l'accessibilité du médicament. Donc ça veut dire que ça soit en termes coût financier, que ça soit en termes de localité, donc que cela soit accessible. Donc ça, c'est déjà un effort qui est fait. Et maintenant, en dehors de ça...
Il n'y a pas d'autres activités.
Et en dehors de ça, si nous avons des activités par rapport au... C'est le lieu également de remercier la brigade centrale de Stipia, avec laquelle nous travaillons beaucoup, qui font également un travail énorme. Et également, c'est l'occasion également de remercier beaucoup la douane parce que nous avons échangé même avec la douane par rapport même à la possibilité d'avoir des pharmaciens inspecteurs au niveau du cordon douanier. Et tout ça, c'est des actions que nous pensons vont pouvoir à la longue aider à mieux étayer parce qu'effectivement, il l'a dit, tout le monde n'est pas connaisseur du médicament. Donc, il faut mettre vraiment des pharmaciens qui sont formés, des professionnels pour pouvoir identifier les choses. Et connaître. Et nous remercions également tous les arrondissements de police de Bamako que nous voyons qui font effectivement la gendarmerie qui font vraiment un travail formidable. Moi-même, personnellement, je suis très souvent intervenu. On m'a tout le temps appelé par rapport à des saisies qui ont été opérées.
Alors, il nous sera très difficile d'évaluer donc l'impact économique de ce trafic au Mali, car toutes nos tentatives de pouvoir joindre la douane pour participer à cette émission ont échoué. Alors, nous avons avec nous la présidente de l'Association des consommateurs du Mali, Madame Coulibaly Salimata Diarra. Merci, Madame, de nous rejoindre. Le débat aujourd'hui porte sur cette question, les médicaments, les faux médicaments, le marché des faux médicaments, les causes et les dégâts aujourd'hui en Afrique et de façon particulière au Mali. Ce phénomène sévit dans le pays. Est-ce que aujourd'hui vous avez peur, c'est un véritable problème de santé publique, est-ce que vous avez peur que ce marché-là n'échappe au contrôle de l'État si ce n'est déjà fait?
Merci Studio Tamani, je m'excuse pour le retard encaissé, en fait j'étais sur un dossier.
Vous êtes excusé.
Bon, moi je pense que la situation est très très difficile, parce que ça fait des années qu'on est sur cette question, et peut-être ils l'ont dit avant moi, j'étais pas là. S'il n'y a pas une coalition forte sur la question, pour gérer la question, je crois qu'un seul pays n'est pas à même de le gérer. Donc il faut une coalition, soit à travers, dans un premier temps, les pays de l'UMOA, pour étendre aux pays de la CEDEAO, parce que le Nigeria est un bon passage pour la matière. Donc je pense qu'il ne l'a pas dit tantôt, il y a la direction de la pharmacie aussi qui travaille et qui fait souvent des destructions, je crois, de pas mal de produits avec qui, en tout cas, les consommateurs travaillent beaucoup. On a participé à un atelier, je crois que c'était en 2014, sur la brigade des stupéfiants, mais nous ne sommes plus associés à leur activité. Mais moi, je pense que quand il a parlé de Gabriel Touré, ça m'a donné une idée. Je ne pense pas que cela soit contraire à la privatisation du secteur. Nous sommes en France, le système est bien privé, mais dans un hôpital, il n'y a pas de produits importés par le malade. Le malade est servi à l'hôpital. Quand le malade est à l'hôpital, il n'est servi que par l'hôpital. Il n'achète pas à l'extérieur pour amener au docteur. Tout est fourni à partir de l'intérieur. Il faut que nous puissions donc trouver un système qui puisse être établi au niveau de chaque hôpital pour que au moins ce qui vous arrive là ne puisse pas arriver. À l'intérieur de l'hôpital, c'est inadmissible. On doit prendre le maximum de précautions pour que, en tout cas, sous votre responsabilité, il n'y ait pas de dégâts de ce genre. Donc, les ordonnances qu'on donne à l'extérieur, j'ai vécu l'expérience il y a quelques mois avec ma cousine qui a eu une fracture de genou, de la cheville. Je suis allé directement à Gabriel Touré d'ailleurs, mais on a tout fait. Ils ont prescrit le produit. Moi, je suis allé acheter le produit à la pharmacie qui est la plus proche de vous, c'est-à-dire Sissoko. Ils se sont débrouillés, c'est leur prescription, j'ai pas acheté autre chose, je me suis fié à l'ordonnance, mais à notre retour à la maison, ils ont fait en sorte de changer le plâtre contre ce que eux, ils ont à vendre au sein de l'hôpital. Ça, c'est des pratiques. Alors que c'est eux qui ont prescrit, je n'ai pas prescrit, j'ai suivi leur prescription, mais comme je connais Sissoko depuis longtemps, j'ai dit, bon, je vais acheter là-bas. Et ça veut dire que, en tout cas, au niveau des structures socio-sanitaires, il nous faut oser et prendre les mesures adéquates. Et vraiment, il y a lieu que, à ce niveau, le conseil de l'ordre des médecins, tout comme l'ordre des pharmaciens, l'ordre des pharmaciens, il faut le dire, il est en train d'évoluer très positivement depuis instant, parce que je les suis de près. Ils m'invitent souvent à leurs trucs. Ils sont en train de, mais l'ordre des médecins, il y a beaucoup à dire. Il faut absolument que la mentalité change.
Alors, je rappelle que celle qui parle tout de suite, c'est la présidente donc de l'Association des consommateurs du Mali, Madame Coulibaly Salimata Diarra. Nous allons observer quelques secondes de pause et ensuite nous partirons avec la troisième partie de cette émission.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Le marché des faux médicaments en Afrique et de façon particulière au Mali, les dégâts, les causes et les dégâts, nous voyons donc tout cela avec nos invités. Nous allons partir à Dakar avec Anaïs Autin. Vous êtes journaliste à BBC. Anaïs, dites-nous si aujourd'hui ce marché souffre de la complicité de la population.
Alors, s'ils souffrent de la complicité de la population, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se fournissent au niveau des des vendeurs de rue. Ce qui est vraiment dommage et ce qui a été souligné par l'ordre des pharmaciens au Sénégal, c'est surtout que les marchés où justement ces faux médicaments sont vendus sont bien connus du public, bien connus des forces de police et personne ne fait rien par rapport à ça. Donc c'est vraiment ça qui est dommage. Si on peut parler de complicité, je ne sais pas. Mais en tout cas, les lieux de vente des faux médicaments sont bien connus de tout le public et tout le monde sait où aller se ravitailler. C'est pas un secret, tout le monde le sait et tout le monde y va. Donc c'est surtout ça. Et puis du côté des pharmaciens, comme le disait votre collègue, c'est surtout qu'ils veulent renforcer les sanctions contre les coupables, du harceleur aux vendeurs. Et ça aussi, on en parle beaucoup, ça fait des années qu'on en parle et c'est toujours la même chose. Aujourd'hui au Sénégal, si quelqu'un est attrapé, c'est 15 à 20 jours de prison et c'est entre 20 000 et 100 000 francs CFA d'amende. Donc c'est vrai que c'est pas assez.
Alors merci beaucoup Anaïs, je rappelle que vous êtes journaliste à BBC et vous intervenez depuis Dakar. Alors docteur Al-Mustapha Maïga, vous êtes chef de service du laboratoire de l'hôpital Gabriel Touré. Est-ce que cette complicité, on ressent cette complicité de là où vous êtes?
Merci, ça me permet aussi de rebondir sur le miracle pas de madame. Vous savez, tout ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui, les faux médicaments, les problèmes au niveau des structures hospitalières au Mali, les structures de santé en général, c'est pas un problème de l'ordre des médecins, c'est pas un problème de l'ordre des pharmaciens, mais c'est des positions politiques, c'est des décisions politiques. C'est-à-dire qu'il faudrait que chacun sache qu'il y a des lois dans ce pays-là, qu'on sache qu'il y a des responsabilités pour chacun et chacun doit s'assumer. Et si tu ne t'assumes pas, tu sais la sanction va tomber. Mais si tu sais que tu n'es pas sanctionné, tu vas le faire et il n'y aura rien dedans. Et donc c'est ça le problème ici au Mali. Ça revient toujours aujourd'hui. Mais vous savez, ce qu'on ne dit pas, c'est que en réalité, ça ne se dit pas, mais c'est catastrophique, même dans les structures de santé. On se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des gens, il y a des gens qui viennent avec des sachets de médicaments dans leur sac, est-ce qu'on va les contrôler, machin, tout ça. C'est des questions aujourd'hui qui se posent aujourd'hui, parce qu'il y a un gros problème de réglementation au niveau des structures de santé. C'est pas l'hôpital Gabriel Touré seulement, c'est toutes les structures de santé en Afrique aujourd'hui. Quand vous regardez, vous partez au niveau de l'OMS, l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, n'a pas aujourd'hui une politique claire sur la gestion des faux médicaments. Il n'y a pas un document officiel qui ressort de l'Organisation des Nations Unies pour la gestion des faux médicaments. Il n'y a pas un consensus international aujourd'hui pour réprimer la gestion des faux médicaments. Il y a des gouvernements qui sont hostiles, il y a des organisations non gouvernementales qui sont souvent d'accord. Donc, il y a vraiment ce problème, il est vraiment mondial en réalité. Nous sommes très petits là-dedans, mais on le ressent. On le ressent parce que souvent, moi je suis au laboratoire, on parle de médicaments aujourd'hui, mais vous savez, le laboratoire c'est les réactifs c'est la même chose que les médicaments, on est aussi impacté. Et donc ça va avoir un impact sur tout le monde.
Le processus.
Voilà.
Alors, docteur, merci beaucoup, docteur Al-Mustapha Maïga. Vous êtes du laboratoire donc de l'hôpital Gabriel Touré. Docteur Gourou Dial, vous êtes vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Mali. Aujourd'hui, l'ampleur c'est indéniable. Ce phénomène existe de façon Le problème est entier aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner les astuces aujourd'hui pour faciliter, sinon intensifier la lutte contre ces faux médicaments au Mali? Qu'est-ce qui est entrepris par l'État?
Merci encore. Bon. Oui, il l'a dit, hein, le confrère l'a dit, il faut la volonté politique. Je pense que ceci est clair. Et sinon, il y a eu des textes, Au Mali, il y a une loi qui crée la Commission nationale de lutte contre la vente illicite. Absolument. Cette commission, elle existe.
Il y a plus de 20
ans. Et depuis que la commission existe jusqu'à date d'aujourd'hui. Quelles sont les activités qui sont menées? Donc vraiment, en dehors de tout ce qu'on a beau à dire, c'est la volonté politique qui prime, il l'a dit. Je voulais revenir un peu
quand
sur...
Quand vous dites aussi, volonté politique, quelles sont les structures incriminées dans cette lutte?
Bon, la volonté, en tout cas, je pense que chaque département a son rôle à jouer dans une organisation. Nous, on est de la santé, on est l'ordre, il y a des choses qu'on dit, qu'on dénonce, mais après, la voie publique, ça ne nous appartient pas.
Qui ne hausse pas le ton selon voilà. vous? Est-ce le département de la santé ou bien donc, le département de la sécurité?
Alors, donc, je ne sais pas, il faut aller voir.
Et
quand, on voit, quand on voit que aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Je me rappelle, il y a, quand je faisais la fac, c'était incroyable de voir, de rencontrer les dames qui vendent ces trucs. C'était impensable, c'était inimaginable. Mais aujourd'hui, à la limite, si vous ne voyez pas qu'on vend ça juste devant... On voit ça partout. Donc j'ai dit, et nous l'avons fait, nous avons fait un travail vraiment énorme, et nous avons présenté, mais j'ai dit une fois de plus, nous ne sommes pas les bras armés de la République.
C'est les décideurs,
nous avons
il faut
un
dire
devoir,
le nom. C'est les décideurs.
Et nous le faisons. Et on le fait savoir à qui de droit. Maintenant, il appartient. Il y a un ministre de l'Intérieur, il y a un ministre de la Sécurité, et que savoir que les faux médicaments pose un véritable problème de danger public. On n'en parle pas. Si votre invité de la douane était là, ou certainement si mon collègue du syndicat était là, ils auraient dû vous donner exactement, en termes de pertes, ce que le Mali subit par rapport à cette situation. Mais moi, je vous dis, en termes de santé publique, aujourd'hui, nous sommes en train de documenter tous les problèmes qui ont été rencontrés. Il y a quelques années, on a beaucoup connu des problèmes, mais ça n'a pas été documenté. Mais à la date d'aujourd'hui, on est en train de documenter tous les cas qui nous arrivent. Pire que ça aujourd'hui. Ces gens, ils font que profiter. Un médicament, c'est quoi? Il y a un département de recherche et développement. Alors, donc, le faux va tuer le vrai médicament. Et le vrai, pour qu'aujourd'hui, demain, qu'on ait un bon médicament, j'espère que le palliatif va finir complètement. D'ailleurs, c'est le lieu également de dire, parce qu'il y a le programme national de lutte contre le palliatif qui fait un travail formidable. Donc si d'ailleurs on suit très bien ses consignes aujourd'hui, le palliatif, on peut être sûr que
il sera vaincu.
Alors, mais permettez-moi juste de dire ça. Donc le médicament, il faut des recherches pour trouver une nouvelle molécule, pour soigner les nouvelles maladies. Bon, alors si ces médicaments ne sont pas achetés, et ce laboratoire, est-ce qu'il va trouver de l'argent pour investir encore pour de nouvelles molécules?
Alors, parlons un peu de ce marché donc, de fourniture des médicaments au Mali. La principale usine de produits pharmaceutiques a fermé, ou bien est en voie de fermeture. Aujourd'hui, est-ce que le Mali a les moyens aujourd'hui de fournir ce marché de médicaments?
L'ensemble.
Non, aujourd'hui, c'est que c'est vous parlez certainement de l'UMPP, parce que c'est la seule usine qui existe, qui d'ailleurs fait, malgré toutes ces difficultés et tout, ça fait un travail formidable quand même, les hommes et les femmes qui animent cette usine.
Est-ce que le Mali a les moyens aujourd'hui?
Non, cette usine a beaucoup besoin aujourd'hui d'être...
Donc le pays n'a pas le moyen?
Non.
D'accord. Nous allons partir à Dakar, rejoindre notre consoeur de la BBC, Anaïs Autain. Dites-nous, Anaïs, vous êtes auteur d'une enquête sur justement ce marché des faux médicaments. Vous intervenez depuis Dakar. Dites-nous quelles sont les difficultés, les insuffisances que votre enquête a révélées et à quel département faut-il attribuer ces insuffisances dans le cadre de la lutte, bien entendu, contre ces faux médicaments.
Alors les insuffisances, évidemment, hein, comme le soulignait mon collègue juste avant, c'était surtout au niveau du renforcement des sanctions hein, contre les coupables, comme on l'a bien souligné, et qu'il faut surtout une volonté politique, évidemment, derrière. Après, la police de son côté, les autorités de leur côté font ce qu'elles peuvent pour effectivement lutter contre les faux médicaments, c'est-à-dire qu'il y a des opérations coup de poing qui sont menées dans ces quartiers, mais de manière sporadique, et puis également des opérations de sensibilisation. Au niveau maintenant de l'industrie pharmaceutique, ce qui se passe pour l'instant pour le Sénégal, c'est que l'industrie se développe peu à peu. Ce qu'il manque surtout, c'est des capitaux. Pour l'instant, l'industrie pharmaceutique sénégalaise est simplement capable de répondre à de 15 à 20% des besoins de la population, ce qui n'est pas assez. Donc du coup, doit importer le reste de ces médicaments, c'est-à-dire 75%, 80% du reste est à importer. Donc c'est surtout un problème d'argent au niveau du Sénégal pour rassembler des capitaux. Donc c'est sur ça, cette optique que le gouvernement, les autorités, l'ordre des pharmacies sont en train de travailler actuellement.
Merci beaucoup Anaïs Autin. Je rappelle que vous êtes journaliste à BBC et vous intervenez depuis Dakar. Madame Koulibaly Salimata Traoré, Salimata Diarra. Vous êtes donc la présidente de l'association des consommateurs du Mali. Aujourd'hui, si on vous demandait de faire un plaidoyer, à qui est-ce que vous allez adresser ce plaidoyer? À quel service vous allez donc attribuer ce plaidoyer pour la lutte, intensifier la lutte contre les faux médicaments?
Moi, je ne passerai pas par quatre chemins. Je m'adresse directement au président de la République. Parce que les autres passages-là, c'est pas... Même pas le chef du gouvernement, parce que ça fait des années, depuis que l'ASCOMA est créé, il était dans la commission dont il a parlé tantôt, on est sur cette question, oui, qui était basée au ministère de l'Intérieur, mais rien ne bouge, la DMP fait ce qu'elle peut en la matière, les pharmaciens font quelque chose, les médecins, pourquoi j'ai parlé de vous, parce que j'ai vu que au niveau des structures, on a tellement de problèmes avec les médecins aussi, qu'il est difficile de dissocier tout ça. Donc, je voudrais que vous soyez un peu à l'abri au moins de ça et qu'il y ait au sein des structures des services qui puissent fournir ça. Alors, bon, donc, moi, mon plaidoyer va aller plus tôt.
Peut-être que le président de la République nous écoute, sait-on jamais.
Oui, je voudrais bien qu'il
soit... Quel est votre message à son endroit?
Mon message est qu'il faut qu'il prenne ce problème-là très, très au sérieux.
Le problème des faux médicaments.
Vous l'avez entendu, un jeune marié qui espérait fonder son foyer est mort à l'instant où il se mariait presque. Vous voyez, des faux médicaments, les pratiques qui se font ici, et les gens, ils le font sans état d'âme. Ils sont sur l'argent, à n'importe quel prix. Donc aujourd'hui, la question ne peut s'adresser qu'au plus haut responsable du Mali, c'est le président de la République.
Ceci est donc compris. Nous espérons que le président de la République a entendu ce message. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que un trafiquant risque s'il est en possession d'un tel produit au Mali? Cette question va donc à Moussa Gouro Dial de l'Ordre des pharmaciens du Mali.
Merci. Alors, donc, sans que je n'ai exactement le truc en tête, mais je pense qu'au maximum, la sanction pécuniaire est de l'ordre de 500 000 à 500 000 pour un emprisonnement de 1 mois à 6 mois maxi. Bon, pour quelqu'un qui
c'est
se fait
des milliards, infime. C'est infime, ça ne signifie rien pour lui.
Je pense que c'est dans cet ordre, voilà.
Alors, quels sont les moyens dont disposent aujourd'hui les structures sanitaires pour justement contrecarrer cette consommation de faux produits pharmaceutiques?
Merci beaucoup, mais permettez-moi juste de réagir à la préoccupation de madame.
Je suis avec vous, je voudrais tout simplement...
Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous.
3 minutes.
Voilà, je suis d'accord avec vous, mais vous savez que la population ne fait pas la différence entre les porteurs de blouse blanche quand vous arrivez à l'hôpital. Donc, il y a des infirmières, il y a des aides-soignants, il y a des stagiaires, il y a des... Voilà. Donc, les gens ne font pas la différence entre les porteurs. Et on dit que c'est des médecins. Donc, c'est juste pour vous dire qu'en général, des médecins assermentés qui travaillent à l'hôpital ne font jamais ça, en général, dans la grande majorité des cas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter? Madame a déjà dit ça. On sait comment ça se passe dans les pays développés, malgré ce que ces pays ont aussi des faux médicaments. Mais dans une structure hospitalière, la pharmacie doit pouvoir fournir 100% des médicaments pour les patients.
Que conseillez-vous aux patients, aux personnes qui accompagnent les
malades? Je conseille aux patients, vraiment, quand vous avez une ordonnance, allez-y tout de suite à la pharmacie de l'hôpital. Je sais que la pharmacie de l'hôpital n'a pas toujours les médicaments, mais allez-y dans des pharmacies au moins. Les pharmacies les plus proches. Les pharmacies, c'est les endroits où on est le plus sûr d'avoir des médicaments fiables aujourd'hui.
Quatre invités, deux dames et deux messieurs. C'était donc le plateau qui constituait donc cette réflexion sur les faux médicaments, le marché des faux médicaments, les causes et les dégâts. Un grand merci à Anaïs Autin. Vous êtes journaliste à BBC et vous intervenez depuis Dakar. Merci à vous. Salimata, Madame Koulibaly Salimata Diarra était également avec nous. Elle est la présidente de l'Association des consommateurs du Mali. Docteur Moussa Gouro Dial est vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Mali. Il était également avec nous. Et pour terminer, Docteur Al-Mustapha Maïga, chef de service du laboratoire donc de l'hôpital du Gabriel Touré, était également avec nous. Je suis Famoussa Sidibé. Ousmane Diadé Touré a réalisé cette émission. Mamadou Ouattara était à la technique. Et Petit Diarra était à la régie vidéo. Nous vous disons à demain. Bonsoir pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Biro.
Halud Mouni.
Chenni Biri. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.